Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer le syndrome de Cushing et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Jérôme Berthera. Professeur Berthera, bonjour.
Bonjour.
Professeur Berthera, vous êtes endocrinologue, professeur des universités à la Faculté de médecine de Paris et praticien hospitalier, chef du service d'endocrinologie de l'hôpital Cochin à Paris. Vous êtes également coordinateur du centre de référence des maladies rares de la surrénale et animateur de la filière FIRENDO, la filière maladies rares endocriniennes. Alors, professeur Berthera, nous abordons aujourd'hui la prise en charge du syndrome de Cushing et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Quels sont les grands principes de prise en charge du syndrome de Cushing?
Alors, le principe de base, c'est d'essayer de traiter la cause, hein, comme souvent en médecine. Et la cause du syndrome de Cushing, c'est ce qui fait un petit peu la complexité de la prise en charge de cette pathologie, peut-être variable d'un patient à l'autre. Donc, lorsqu'il s'agit d'une lésion surrénalienne, le principe est d'essayer de faire l'exérèse de cette lésion surrénalienne. Lorsqu'il s'agit d'une lésion de l'hypophyse, de aussi la traiter directement. Et dans de rares cas, il peut s'agir d'une tumeur neuroendocrine qui est en dehors de l'hypophyse. Et le grand principe est aussi là d'essayer de la localiser pour ensuite en faire l'exérèse. Donc, au-delà du traitement de la cause, lorsque celui-ci ne peut pas être fait immédiatement ou complètement, l'approche vise à contrôler la sécrétion de cortisol puisque les conséquences du syndrome de Cushing, quelle que soit la cause, sont toujours liées à l'excès de cortisol. Le syndrome de Cushing regroupe toutes les pathologies liées à un excès de production de cortisol par les surrénales. Et puis, bien évidemment, on peut aussi traiter au niveau de chaque complication du syndrome de Cushing par un traitement spécifique chacune des complications. Donc, c'est une prise en charge qui est vraiment complexe parce qu'elle associe différentes approches et quelque part aussi différents spécialistes.
Et plus particulièrement, comment cette prise en charge peut-elle être personnalisée pour les patients?
Alors, bien évidemment, le premier grand niveau de personnalisation, c'est en fonction du diagnostic étiologique, c'est-à-dire la cause qui est responsable du syndrome de Cushing. Si c'est une cause hypophysaire, ce qui est finalement la plus fréquente, ce qu'on appelle en fait la maladie de Cushing, hein, bien différencié du syndrome qui est toutes les causes, le premier traitement qui est proposé lorsqu'il est réalisable et lorsqu'on en attend un bon résultat, c'est une intervention neurochirurgicale où le neurochirurgien, par voie transphénoïdale, c'est-à-dire en passant en général par le nez aujourd'hui, va aller opérer l'adénome hypophysaire. La cause est surrénalienne. Eh bien, en général, c'est une chirurgie de la surrénale. Le plus souvent, la lésion est sur une des deux surrénales, donc on va opérer la surrénale. Et si c'est un adénome, c'est-à-dire une tumeur bénigne, on opère maintenant en celluloschirurgie. Et puis, lorsqu'on est face à une tumeur maligne, ce qui est assez rare, mais ce qu'on peut rencontrer dans les différentes causes du syndrome de Cushing, qu'il s'agisse d'une tumeur de la surrénale ou d'une tumeur neuroendocrine, qui est le plus souvent pulmonaire ou pancréatique ou dans la sphère abdominale, et bien à ce moment-là, on peut aussi la traiter lorsqu'elle n'est pas opérable par des traitements médicamenteux. Et puis les tumeurs neuroendocrines par des chimiothérapies ou des thérapeutiques ciblées qui sont maintenant des thérapeutiques fréquemment utilisées en cancérologie. Et puis pour une même cause, on va bien sûr adapter à chaque patient la prise en charge. Par exemple, certains patients ne vont pas être opérables, soit parce qu'ils seront en trop mauvais état au moment du diagnostic. Ça peut être les conséquences de l'excès de cortisol, et notamment lorsqu'il y a un retentissement cardio-pulmonaire trop sévère, on ne peut pas les opérer d'emblée. Soit lorsque la lésion causale, que ce soit une lésion bénigne ou une lésion maligne, ne peut pas être opérable dans de bonnes conditions. À ce moment-là, on va d'emblée s'orienter plutôt sur un traitement médical qui va viser à contrôler la sécrétion de cortisol. Et puis, il y a certaines situations, en fonction des projets du patient, où on va aussi être orienté sur le type de prise en charge. Par exemple, une femme jeune désirant un enfant, et il faut savoir que la maladie de Cushing survient avant tout chez la femme en période d'activité génitale, eh bien, si la chirurgie hypophysaire est un échec, on va être limité dans les possibilités de traitement médical parce que beaucoup des traitements médicaux sont contre-indiqués pendant la grossesse. Donc à ce moment-là, on va souvent s'orienter vers une chirurgie qui consiste à enlever les deux surrénales, qui est un traitement qu'on fait habituellement après échec des autres thérapeutiques, et que là, bien évidemment, après une longue discussion avec la patiente, et parce qu'il y a ce projet de grossesse et qu'il paraît difficile de différer, on va programmer plutôt que d'habitude une sonectomie bilatérale. Et puis, il faut savoir qu'on a aussi des contingences en fonction de l'environnement dans lequel on évolue. Donc, tous les médicaments du syndrome de Cushing et tous les types de chirurgie, même si là, l'offre est quand même assez bien diffusée, mais en tout cas, c'est vrai pour tous les médicaments, ne sont pas accessibles dans tous les pays. Et indépendamment de l'accessibilité, en fonction des systèmes d'assurance maladie, en France, la sécurité sociale, dans d'autres pays, des assurances privées, tout ne va pas forcément être pris en charge. Donc, ça peut être aussi un facteur limitant et donc un élément dans les décisions thérapeutiques.
Alors, professeur Vertera, au-delà du syndrome de Cushing en lui-même, quelles sont les comorbidités les plus fréquemment rencontrées chez ces patients et comment les prendre en charge ?
Alors, ce qui est très particulier au syndrome de Cushing, c'est que le cortisol est une hormone qui agit sur tous les tissus. Donc, les comorbidités qui sont liées au syndrome de Cushing sont extrêmement nombreuses et lorsqu'elles sont sévères, font toute la sévérité, la gravité de la maladie en l'absence de traitement efficace. Le diabète est une complication classique du syndrome de Cushing, l'hypertension artérielle aussi, les accidents cardiovasculaires, l'ostéoporose avec pour conséquence, lorsqu'elle est sévère, des tassements vertébraux, des fractures, notamment des fractures du fémur. Il peut y avoir un retentissement aussi au niveau de l'humeur avec un syndrome dépressif. Et puis, il y a une susceptibilité aux thromboses veineuses, c'est-à-dire aux phlébites et aux embolies pulmonaires. Donc, toutes ces complications du syndrome de Cushing, indépendamment du traitement de la cause, la normalisation du cortisol, on va aussi les prendre en charge en tant que tel avec des traitements spécifiques. Donc, l'évaluation initiale de toutes ces complications et comorbidités est extrêmement importante pour définir le plan de prise en charge du patient.
Et pour terminer, professeur Bertera, comment organiser la coordination et le suivi des soins de ces patients ?
La prise en charge fait intervenir vraiment de nombreux spécialistes. C'est une maladie rare et complexe, donc à un moment, il y a besoin pour l'étape diagnostique et définir le plan thérapeutique d'une évaluation dans un centre expert. Et en France, par exemple, par la définition, dans le cadre du plan national maladies rares, des centres de référence et des filières maladies rares, il y a tout un réseau de centres de référence et de centres de compétences pour la prise en charge des maladies rares de la surrénale dont fait partie le syndrome de Cushing. Donc cette étape clé pour une discussion pluridisciplinaire, à la fois diagnostique et de définition du plan thérapeutique, est essentielle. Et dans cette discussion vont intervenir bien évidemment des endocrinologues, mais aussi des radiologues, des biologistes qui font faire l'évaluation hormonale, et puis les différents spécialistes qui peuvent être amenés soit à traiter la cause, soit à traiter les complications. Le neurochirurgien, le chirurgien endocrine, le cardiologue, le rhumatologue, le psychiatre, le spécialiste de l'hémostase, en fonction des situations et des patients. Et bien évidemment, parce que les patients ont besoin aussi d'une prise en charge de proximité, il faut avoir des relais avec un spécialiste de proximité et bien évidemment aussi, très important, le médecin généraliste qui prend en charge à proximité du domicile l'ensemble des pathologies du patient.
Eh bien, merci infiniment, professeur Bertora, de nous avoir éclairé sur le syndrome de Cushing. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette pathologie. À très vite.